Cher Philippe Benoni et cher Diego Arrabal, c'est toujours un vrai plaisir et de la joie partagée de vous retrouver chaque semaine. La semaine dernière, on parlait de la Deuxième Guerre mondiale.
Voilà, la semaine dernière.
Parce qu'il y en a eu deux. Il y en a eu la première.
Il y en a eu la troisième.
On espère qu'elle n'arrivera pas.
C'est mal barré.
Oui, je ne sais pas. Mais on va toujours prier et espérer que surtout elle n'arrive jamais. Aujourd'hui, on va avec vous, Philippe Benoni, on va parler d'un homme qui est à la fois passionnant.
De plusieurs hommes. De l'oncle et de son neveu.
Oui.
On va rester dans la grande histoire de France, puisque la semaine dernière, on y était par rapport à la Seconde Guerre mondiale. Donc, on va partir pour un voyage dans cette grande histoire de France, dans celle des grands personnages, des figures tutélaires, des dictateurs, on ne va pas se mentir non plus, de ces personnalités, en tous les cas, qui ont contribué à fonder la France d'aujourd'hui, tant dans son droit que dans son architecture moderne. Alors, ça doit vous parler, je pense. Si je vous dis, par exemple, à tous les deux, Napoléon, je suis certain que ce nom vous parle.
Mm-hmm. Ah non, c'est qui ?
Non, ah, je me doutais bien.
C'est une bande dessinée.
Voilà,
c'est...
maintenant, ouais. Si je vous dis les Napoléons.
Ah, moi, je pense tout de suite à les pièces.
Oui, les pièces. Ah oui, qui valent leur pesant d'or.
Ça doit vous parler aussi. Eh bien non, je vais vous parler d'un livre qui m'a régalé, qui parle effectivement des Napoléons. Un livre donc qui m'a régalé, notamment par l'angle choisi par les auteurs Dimitri Casali, qui est un historien, qu'il a écrit en collaboration avec un autre historien, donc Marin Manzin. C'est un livre qui a été publié aux éditions Albin Michel. Donc une grande maison d'édition qu'on ne présente plus. Ces deux hommes donc présentent la particularité, comme je l'ai dit, d'être historiens, et ils ont abordé les deux Napoléons, Napoléon Ier et Napoléon III. Napoléon Ier était l'oncle
de Napoléon III.
D'accord.
Et ils l'abordent sous l'angle des changements radicaux apportés par ces deux hommes à notre pays. Il faut savoir que jamais notre pays n'a été autant modifié que par ces deux hommes, tant dans son droit que dans l'architecture. Ça reste quand même deux faits uniques dans l'histoire de France, et c'est l'angle d'attaque qu'a choisi cet auteur. Et donc ça s'appelle La France napoléonienne, Napoléon Ier et Napoléon III, publié aux éditions Albin Michel. Donc un thème vraiment intéressant. Pourquoi ? Parce que ce livre est construit de telle manière qu'il présente les apports des Napoléons par région. C'est-à-dire, on a la région Occitanie, on a la région Hauts-de-France, vous avez la région Nouvelle-Aquitaine. Et c'est cet aspect qui rend le livre addictif, parce qu'on a quelque part l'impression d'ouvrir un manuel de tourisme pour suivre les périples des deux empereurs. Et si l'on y regarde d'un peu plus près, bon, vous le savez, Napoléon Ier, c'est le code civil. Vous le saviez, ça, Philippe Subercase et...
Par cœur.
Et Diego Arrabal, par cœur.
Non, mais ça, Diego le savait.
Voilà, ça, Diego le savait. L'organisation du territoire avec les préfectures et les sous-préfectures.
C'est toujours Napoléon Ier.
C'est toujours effectivement Napoléon Ier.
Qu'on a toujours du mal aujourd'hui à enlever, parce qu'il était un moment question d'enlever les sous-préfectures, mais elles sont toujours là.
Alors, écoutez, c'est une organisation qui n'a pas bougé d'un iota plus de 200 ans plus tard, ce qui veut dire que quelque part, l'organisation qui a été définie par Napoléon Ier a quand même convenu à un certain nombre effectivement de personnes, puisque le préfet, le sous-préfet, en fait, c'est l'œil de Paris, quoi, sur place, et le représentant donc de l'État. Ce que l'on connaît moins, par exemple, c'est que Napoléon Ier est à l'origine de la création de la numérotation des rues. Alors je vais vous lire cet extrait en page 137 du livre pour vous expliquer comment il a fait. Et c'est là où ça devient effectivement véritablement intéressant. C'est comment la définition de la numérotation des rues a été arrêtée. C'est en page 137. Je vais y arriver dans quelques secondes. Nous y voilà. Napoléon invente la numérotation des rues. Alors, à quelques exceptions près, l'ancien régime ne connaissait pas les numéros attribués aux maisons. Celles-ci étaient désignées par leur enseigne pour les boutiques, par leur nom pour les hôtels particuliers ou d'après leur voisinage. Je vous rappelle par exemple que sur les Hautes-Pyrénées, les gens ne sont pas forcément désignés par leur nom, ils sont désignés
par leur maison,
par la maison dont ils sont issus. On retrouve là C'est pareil en Pays Basque d'ailleurs. On retrouve là une vieille survivance qui date de l'Ancien Régime. Et comme à l'époque on a du mal à trouver les maisons, eh bien que fait Napoléon ? Vous allez voir. En 1790, La Révolution a fait adopter un système en établissant un numérotage à l'intérieur de chacune des 48 sections, mais disparate et peu rationnel. Ainsi pouvait-on retrouver plusieurs fois le même numéro dans une même rue, donc je vous laisse imaginer pour arriver à trouver les gens, traversant plusieurs sections du numéro sans suite ou des chiffres de plusieurs milliers. Donc, impossible. Frappé par l'illogisme du procédé, l'empereur Napoléon Ier fait adopter pour Paris un système de numérotation simple qui sera repris dans toute la France, puis dans l'Europe entière. Il fait établir par décret du 4 février 1805, donc vous y penserez Philippe Subercas, quand vous rentrerez chez vous tout à l'heure, vous saurez que c'est suite au décret impérial du 4 février 1805 que Philippe Subercas habite tel numéro, telle rue, à tel endroit. Et donc que toutes les rues de la ville de Paris seront numérotées, écoutez bien, à partir de la Seine pour les rues perpendiculaires au fleuve et dans le sens du courant pour les rues parallèles, que les numéros seront impairs à gauche et les numéros pairs à droite. L'affichage de ces numéros, positions, graphismes, etc. est soumis à une réglementation stricte. Les numéros des rues parallèles sont peints sur fond rouge, ceux des rues perpendiculaires sur fond noir. Les chiffres blancs sur bleu uniforme en porcelaine émaillée datent de la réglementation de 1847. On retrouve encore, aujourd'hui, dans Paris, quelques plaques, effectivement, qui sont des survivances. Et ce système est toujours établi. Donc je vous le redis, hein. Toutes les rues de la ville seront numérotées à partir de la Seine pour les rues perpendiculaires au fleuve. D'accord ? Et dans le sens du courant pour les rues parallèles. 250 ans après, rien n'a changé.
Non.
Ça a été adopté dans toute la France, mais également dans toute l'Europe.
C'est adopté dans toute l'Europe.
Voilà.
Même en Angleterre.
Même en Angleterre.
Ce qui permet d'ailleurs à Londres, quand il y a du brouillard, de ne pas tomber dans la Tamise.
De ne pas tomber.
On sait où est la Tamise.
Vous voyez ? Donc ça, c'est un... Alors moi, c'est une première chose que j'ai appris. Est-ce que vous le saviez, ça ?
Non.
Ben, je ne savais pas que c'était Napoléon, mais ouais. je savais que la numérotation partait de la Seine et qu'elle suivait le cours de la Seine pour les rues parallèles. Effectivement, ça, je savais.
Vous voyez, donc, alors, ce qui fait que quand j'étais à Paris, il n'y a pas très longtemps que j'ai lu ce livre, je me suis dit, ben, tiens, je vais aller voir. Et c'est vrai qu'en fait, quand on le regarde, on comprend effectivement cette logique. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous allez dans une ville et puis que vous visitez cette ville sous l'aspect historique, en regardant oui. effectivement ce qui a été inventé, eh ben vous voyez d'un seul coup la ville sous un autre aspect. Et ça, ça rend ce livre particulièrement intéressant. Je vais parler également de Napoléon III. Alors vous savez que Napoléon III, on ne peut pas penser et évoquer Napoléon III sans penser à la création de la plus grande forêt d'Europe existante. Je suppose que vous savez de laquelle on parle.
De la plus grande ?
Forêt d'Europe. Philippe Subercas.
Non.
La forêt des Landes.
C'est la plus grande forêt d'Europe.
C'est la plus grande forêt d'Europe.
D'accord.
Actuellement. Voilà. Et c'est une forêt artificielle.
Oui.
D'accord. Qui a été créée par Napoléon III. D'accord. Donc, à savoir la forêt de
pins. Mmh.
Voilà, la forêt de pins des
Landes. Oui.
Donc, la volonté de l'empereur. Oui. Pourquoi crée-t-il donc effectivement les pins? Et ça, c'est passionnant. L'objectif, c'est de stopper l'avancée des dunes qui envahissent les terres tempête après tempête et pourraient mettre à mal, notamment, la riche terre viticole du Médoc. Leur crainte, c'est que le sable avance et puis
qu'il n'y ait plus de vin.
Les vignes du Médoc soient envahies au fur et à mesure par les différentes tempêtes et que le vin, effectivement, ne puisse plus prospérer. Donc on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Et Napoléon III a l'idée géniale de dire sur toute la côte, depuis l'estuaire de la Gironde en descendant donc le plus loin possible, quasiment jusqu'au Pays Basque, hein, donc jusqu'à la frontière entre les Landes et le Pays Basque, donc on arrive jusqu'à la Dour. On va effectivement planter des pins. Et voici donc ce que recommande Napoléon III, c'est en page 214 et 215 donc, du livre « La France napoléonienne ». Et là, pareil, quand vous irez dans les Landes, ben, vous pourrez effectivement vous dire « voilà ce qui a été fait, pourquoi ça a été fait effectivement par Napoléon III ». Je vous lis, c'est en page 214 du livre « La France napoléonienne ». Un chantier pharaonique, et c'était le cas. Napoléon III incite à la modernisation de l'ensemble du pays, mais tout spécialement des Landes. Les préfets portent alors leurs efforts sur la bonification des terres. On assèche les régions marécageuses. On encourage le drainage de l'eau responsable de la propagation du paludisme et on développa l'économie sylvicole. Je rappelle, et j'ai les récits de ma grand-mère dans les Landes, qui me racontait les récits de sa grand-mère, donc de mon arrière-arrière-grand-mère, Le paludisme donc existait dans les Landes, c'est-à-dire on avait à l'époque l'équivalent donc de ce que l'on trouve dans les régions tropicales aujourd'hui, du fait effectivement qu'on avait énormément de marées. Or, la particularité du pin, c'est quoi ? C'est d'avoir besoin d'énormément d'eau. Donc, on plante le pin qui va fixer les dunes, mais qui va permettre aussi d'assécher les marées, de créer une économie, puisque en 1914, à la veille, on en parlait tout à l'heure, de la Première Guerre mondiale, on produit dans les Landes 125 millions de litres de résine. Vous voyez, en 1914, alors qu'en 1850, il n'existe rien. Donc vous voyez qu'entre 1850 et 1914, il y a 64 ans qui s'écoulent, on a créé une véritable économie, on a permis effectivement à des hommes de pouvoir travailler, et je vais continuer ce qu'il fait. Donc c'est en 1857 que les lois dites, je cite, « d'assainissement et de mise en culture des Landes de Gascogne » oblige communes et propriétaires à ensemencer les terres pour la mise en œuvre d'un très ambitieux programme de plantation. L'exploitation de la résine va apporter l'aisance à cette région et donner naissance à la plus vaste forêt d'Europe. Et là, écoutez bien, les 200 hectares de pins naturels plantés en 1857, Philippe Subercase et Diego Arrabal, deviennent rapidement la plus vaste forêt artificielle d'Europe, s'étendant sur plus d'un million d'hectares. On a commencé par 200 hectares en 1857, pour arriver à un million d'hectares, donc quelques années plus tard. C'est pour vous dire l'effort effectivement qui a été porté, ce qui fait que les Landes telles qu'on les voit aujourd'hui ne ressemblent plus du tout aux Landes de la première moitié du 19e siècle, qui était une région totalement marécageuse. Et où à l'époque, vous aviez les Landais que l'on voit qui étaient tchankés, c'est-à-dire qui avaient des échasses. Pourquoi ? C'était effectivement pour pouvoir passer dans les marais et pour surveiller donc les moutons. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit les échasses ont disparu, du fait effectivement qu'on n'ait plus besoin de cela. Et les hommes sont devenus des hommes à pied, comme effectivement ils pouvaient passer sans souci. Et on a développé une économie sylvicole, beaucoup de scieries aujourd'hui donc sur place, qui génèrent énormément d'emplois. Bon, moi j'ai connu la résine quand j'étais jeune, ce qu'on appelait l'oukutiote en patois landais, c'est-à-dire le petit pot de résine. Et tout ça, on le doit effectivement à Napoléon III. Qui a véritablement donc organisé les Landes et créé cette économie. Alors tout à l'heure, vous me parliez d'Eugénie.
Eugénie, oui.
Voilà, Philippe
Subercase. La femme de l'empereur.
Voilà, la femme de l'empereur.
Lequel ? Napoléon III.
Tout à fait. Tout à fait. C'était Joséphine, l'épouse de Napoléon Ier. Oui. Et c'était donc Eugénie, l'épouse de Napoléon III. Alors, on ne peut passer sous silence l'apport de Napoléon III et surtout de son épouse, l'impératrice Eugénie, pour l'aménagement des thermes de Luz Saint-Sauveur.
Ben oui, parce qu'elle venait pour ses bronches.
Ouais. Et le pont Napoléon, que l'on connaît tous, aujourd'hui, où il y a des gens, vous savez, qui viennent, qui sautent, là, qui font du saut à l'élastique, est un pont dont la construction a été décidée par Napoléon III. Voilà, et ça, on peut en parler également aussi pour les thermes de Bagnères du Bigorre, puisque vous savez qu'au terme de Bagnères du Bigorre, nous avons les thermes de la Reine. Et si vous y allez à l'intérieur, vous verrez qu'il y a un immense bassin, qui est quasiment une petite piscine olympique, qui était réservée spécialement pour l'impératrice Eugénie, la femme, effectivement, de Napoléon III. Et cette volonté de désenclaver ce qu'ils appelaient à l'époque la France périphérique, c'était le terme à l'époque employé par Napoléon III. Aujourd'hui, vous savez, on dirait la France d'en bas plutôt. Vous avez vu, les termes, ils évoluent en fonction de l'époque. Elle est permise par la création d'un réseau ferré dont nous bénéficions aujourd'hui. Qui développe ce réseau ferré ? Napoléon III.
Et une anecdote, donc dans les réseaux ferrés, on doit aussi le fait que la ligne était ferroviaire et faisait Potarbes. Et du fait des apparitions à Lourdes et du monde qui vient à Lourdes, eh bien on a fait Pau, Lourdes, Tarbes. Sinon, la gare, il n'y aurait pas eu de gare SNCF.
Il n'y aurait jamais eu de gare SNCF.
C'est vraiment le fait de Lourdes qui amène une gare à Lourdes.
Tout à fait. Et c'est vrai que c'est quelque chose, effectivement, d'extrêmement spécifique. Alors, je vais vous lire, c'est en page 230 de la France napoléonienne, donc aux éditions Albin Michel, parce que ça nous intéresse quand même, c'est Napoléon III et les Pyrénées. On ne peut passer sous silence le fait qu'aujourd'hui, si les Pyrénées ont des thermes aussi développés, c'est grâce à l'impératrice Eugénie, à Napoléon III. Il n'y aurait pas eu l'impératrice Eugénie, il n'y aurait pas eu Biarritz, il n'y aurait pas eu Luz Saint-Sauveur, il n'y aurait pas eu Bagnères de Bigorre. Et alors, ce qui est très particulier, c'est que quand vous regardez aujourd'hui, vous trouvez des résidences Eugénie, vous trouvez des rues Eugénie. Et il n'y a, c'est ce que disent les auteurs, aucune rue consacrée à Napoléon III en France. Aucun boulevard. Aucune impasse. Absolument rien. C'est-à-dire, on a gardé l'impératrice, bon, qui était la femme du dictateur, hein, mais on n'a pas gardé Napoléon III, qui a été alors détesté pour deux raisons. Hein. La première, c'est donc la guerre de 1870 qui est perdue par la France. Et puis, il ne faut pas l'oublier, c'est que le grand contempteur donc, de Napoléon III, c'était Victor Hugo. Victor Hugo est contraint à l'exil entre 1851 et 1870. Et donc, dans l'histoire de France, on va retenir effectivement cette partie-là le concernant. Alors aujourd'hui, c'est pour ça que je voulais présenter un aspect un peu différent. C'était un dictateur comme Napoléon Ier, on est d'accord. Mais ne pas oublier aussi l'apport effectivement.
Qu'on lui doit des choses. Ouais.
Qu'on lui doit des choses, voilà. Mmh. La vie, c'est jamais du noir ou du blanc. C'est du gris, je vais vous lire. Donc c'est en page 230 hein, du livre « La France napoléonienne, Napoléon et les Pyrénées ». L'aménagement de la station thermale de Saint-Sauveur. Le 18 août 1859 est organisé un grand voyage inaugural de la première ligne de chemin de fer depuis Paris jusqu'à Saint-Sauveur, qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui existait à l'époque.
Oui.
Il y avait le train effectivement qui y parvenait, dans le département des Hautes-Pyrénées. Napoléon et l'impératrice Eugénie sont les premiers passagers de cette nouvelle ligne. Le couple impérial profite de ce voyage pour effectuer un séjour au terme. Eugénie, toujours bien affaiblie par la naissance de son fils 3 années auparavant, espère se remettre en profitant des eaux pyrénéennes. La présence du couple impérial à Saint-Sauveur provoque un afflux massif de curieux profitable au commerce. C'est aussi l'occasion de quelques aménagements. Afin d'accueillir au mieux leur majesté impériale, la municipalité a fait rénover les thermes par de nombreux ouvriers qui seront félicités par l'empereur. De son côté, soucieux de laisser un bon souvenir à ses sujets, celui-ci décide de la construction de 2 chapelles. Donc les 2 chapelles aujourd'hui que l'on a à Lus Saint-Sauveur ont été construites effectivement.
À la demande de Napoléon III.
De Napoléon III et de l'impératrice Eugénie.
Après, il y a le fameux pont, le pont Napoléon.
C'est lui également qui l'a fait construire.
Qui l'a fait construire. Voilà. Partant, il porte son nom.
Voilà, exactement. Mmh. Alors par contre, ce qu'on ignore, c'est que quand on pense le pont Napoléon, tout le monde pense que c'est un pont attribué à Napoléon Ier. Non.
C'est à Troyes.
C'est Napoléon III. Et ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que le regard que l'on a, quand on va sur l'environnement ici ou ailleurs, hein, c'est effectivement de regarder l'histoire de France différemment, notamment au travers de ses monuments, d'accord, que ce soit les thermes, que ce soit les chapelles, etc., que ce soit les lignes de chemin de fer qui ont été faites, en regardant effectivement cet apport. C'est tout l'intérêt, je trouve, de ce livre, hein, vraiment, que je recommande. Alors, je vous termine cela. Donc, la première chapelle est destinée à remplacer l'ancienne chapelle édifiée près des thermes qui ne dégage à ses yeux rien de bien remarquable et qu'il fait abattre. Napoléon en confie l'érection à l'architecte protestant Buschwilwald, qui lui donne l'aspect d'une véritable église. Elle prend le nom de chapelle impériale, titre qu'elle a toujours aujourd'hui.
D'accord.
La seconde est édifiée pour commémorer la victoire française à la bataille de Solferino remportée le 24 juillet 1859, soit quelques mois avant la venue de l'empereur. Les terribles combats qui ont inspiré à Dunant la fondation de la Croix-Rouge, donc suite à cette bataille, ont fait près de 40 000 morts ou blessés. La chapelle dite de Solferino élevée sur les ruines d'un ancien ermitage leur rend hommage. Encadrée par les hauteurs des Pyrénées au sommet d'une colline, elle est d'un style sobre mais ornée d'un imposant clocher. On peut toujours les visiter aujourd'hui.
D'accord.
Voilà. Et moi, c'est pour ça que je voulais vous parler de ce livre, parce que je trouve effectivement qu'il est extrêmement intéressant. Et il parle aussi, c'est ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est que dans cet ouvrage, il parle des maréchaux de Napoléon Ier, qui sont originaires du sud-ouest de la France. Murat, surnommé le plus beau cavalier de l'Empire, qui est né dans le Lot, à la Bastide Murat. Mmh. Le maréchal Lannes, ce courageux indomptable, né à Lectour, dans le Gers. Maréchal Lannes, dont on parle souvent, ben, il était de Lectour, dans le Gers, juste à côté d'ici. Moi, c'est vrai que je l'ai découvert dans ce livre, je l'ignorais. Soult, le maréchal Soult, on a plusieurs rues, hein, on a une rue à Tarn. Soult, le meilleur des tacticiens, né dans le Tarn, à Saint-Amand. La Bastide, voilà. Et vraiment, je le recommande parce que ça présente effectivement l'ensemble de l'apport de tous les Napoléons, des 2 Napoléons, donc dans l'ensemble des régions de France. Alors, il y a notamment la Bretagne, hein, c'est très intéressant.
Mais vu l'épaisseur du livre, parce que moi, je l'ai devant les yeux. Hein,
il y a beaucoup de photos à l'intérieur. Beaucoup de photos également. Beaucoup de photos, des monuments.
Qui expliquent un peu aussi la façon. Hein.
Voilà, qui présente donc...
Mais vous qui n'aimez pas voilà, tout ce qui est dictateur, guerre et tout, qu'est-ce qui vous a... Qu'est-ce qui vous a, parce qu'il y a marqué la France napoléonienne, qu'est-ce qui vous a fait que vous avez pris ce bouquin dans les mains et vous l'avez feuilleté?
Alors, c'est le fait qu'il y ait la France napoléonienne, c'est-à-dire quand j'ai lu la quatrième de couve derrière, la France, première destination touristique au monde, n'a jamais été aussi vite transformée et embellie que par ces deux empereurs, Napoléon Ier et Napoléon III. Beaucoup l'ont oublié, mais par exemple, le pont de pierre de Bordeaux, Napoléon Ier, la place Bellecour à Lyon, Napoléon, les villes de Roche-sur-Yon, qui s'appelaient à l'époque Napoléonville, Napoléon Ier. Alors Vichy, Pontivy, Pontivy qui est une ville qui n'existait pas en Bretagne, qui a été créée. Les stations balnéaires de Biarritz, Deauville, Arcachon, le palais du Pharaon à Marseille, les canaux de Saint-Quentin ou de Nantes, ou encore le Fort Boyard, dont vous regardez l'émission, ouais. nous le savons tous.
Et qui va être restauré.
Qui va être restauré suite aux différentes tempêtes, leur sont dues. Le Fort Boyard a été construit pour empêcher les Anglais de rentrer à l'intérieur de l'estuaire de la Charente et aller jusqu'à l'arsenal de Rochefort où les Français fabriquaient les bateaux.
D'accord.
Et donc, on a construit Fort Boyard pour ça. On a donc établi des fortifications à l'île d'Aix qui est à 400 mètres, à Val d'Oiseau, 400-500 mètres. Et quand les Anglais passaient, ben, ils prenaient une bordée de canons. Et donc, ils étaient obligés.
Ils repartaient.
Ils repartaient. Et par exemple, Fort Boyard, c'est un véritable exploit parce qu'il est construit sur un éperon rocheux. À l'époque, ils n'avaient pas toutes les techniques d'aujourd'hui. Oui, et oui. Dans ce livre, ils en parlent de comment ils ont fait. Et ce que je trouve intéressant par rapport à votre question, ce sont deux dictateurs, mais c'est l'angle d'attaque qui est donné pour dire qu'est-ce que ces gens ont apporté à la France et qu'est-ce qu'ils ont laissé. C'est pas de dire, voilà, ils ont fait des guerres, etc. Napoléon III aussi a été un guerrier. Là, il y a la bataille de Solferino, il a envahi de mémoire Madagascar, il y a eu la bataille au Mexique, la fameuse bataille au Mexique qui est fêtée aujourd'hui par la Légion étrangère. C'est Napoléon III qui envoie la Légion étrangère donc au Mexique, effectivement, pour
soutenir l'empereur qui avait été mis en place
pour soutenir l'empereur et puis
par les puissances occidentales.
D'accord.
Donc
c'était Maximilien d'ailleurs. C'était aussi un Autrichien qui a mal fini puisqu'il a été fusillé. Voilà.
Et Napoléon III par exemple, a mal fini aussi. Il a été tué en Afrique du Sud. Ça, je l'ignorais, je l'ai appris dans le livre en faisant un voyage. Il a été tué effectivement par une tribu zoulou. Après, il a été destitué en 1870, puisqu'il a d'abord été élu président. Il a fait un coup d'État, d'accord ?
Ouais.
Il a fait un coup d'État, il est resté donc, au pouvoir de 1850 à 1870, mais durant les 20 ans où il reste au pouvoir, il transforme littéralement, effectivement, la France. Il a conscience que la France, effectivement, a besoin d'être modifiée. Et si vous prenez Paris, la ville de Paris aujourd'hui avec le préfet Haussmann, qui nomme le préfet Haussmann, c'est Napoléon III.
D'accord.
C'est Napoléon III qui lui donne tous les moyens nécessaires pour pouvoir effectivement transformer Paris. Et par exemple, il y a une photo à l'intérieur de Paris où on voit toutes les vieilles ruelles qui ont été abattues. Et pourquoi ont-elles été abattues ? Parce qu'elles étaient tellement étroites que dans Paris, il y avait une hygiène qui était déplorable. C'est lui qui met en place tous les égouts de Paris.
En fait, vous êtes en train de nous dire que si on veut réformer, on peut réformer.
Alors, écoutez, c'est ce qui est écrit dans le livre, justement, par l'historien qui dit qu'aujourd'hui, Napoléon III ferait pâlir certaines personnes pour arriver, effectivement, à réformer la France, mais comme Napoléon Ier, parce qu'ils ont réussi, effectivement, à mettre en place des décisions. Je vous parlais du réseau ferré. Le réseau ferré sur lequel on roule aujourd'hui est un réseau ferré créé par Napoléon III. Il n'y a pas grand-chose qui a bougé, effectivement, depuis. On a fermé des petites lignes. Toutes les petites lignes dont vous parliez, qui est celle qui montait à Luz, etc.
Et à Cotteret.
À
Cotteret aussi.
Voilà, ça a été fermé parce que, bon, il y a eu la voiture, etc. C'était pas exploité. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on lit cet ouvrage, on voit ces monuments qui aujourd'hui ne sont plus forcément exploités avec un autre œil. Et c'est ça que je trouve intéressant. C'est que ces historiens, dans la France napoléonienne, donc de Dimitri Casali, donc aux éditions Albin Michel, nous offrent vraiment un regard intéressant. Et quand vous le prenez pour visiter la France, par exemple, l'autre jour, j'étais à Paris, j'ai vraiment regardé les rues de la façon dont, effectivement, il a voulu les créer. Là, il n'y a pas très longtemps, je vous le disais l'autre jour, j'ai descendu le sentier côtier entre la gare de Bayonne jusqu'à l'estuaire de la Bidassoa. Quand je me suis arrêté à Biarritz, ville impériale de Napoléon III, j'étais à l'endroit où Napoléon Ier s'est baigné. Donc, c'est indiqué. J'étais à l'endroit où l'impératrice Napoléon III est peinte dans un des tableaux. On a d'un seul coup une autre vision. voilà, des éléments, et j'ai trouvé ça particulièrement passionnant dans ce livre.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.